Alors, donc, c'est le dernier séminaire du trimestre et de l'année. Et donc, le prochain, le dernier cours, c'est pas un séminaire. Et le prochain cours aura donc lieu le samedi 5 janvier. Alors, j'étais en train d'expliquer que en face du vouloir écrire, il y avait un vouloir non écrire, que j'ai essayé de décrire, et qui est, auquel j'ai donné le nom général d'oisiveté. Et j'ai établi des sortes de strates plus ou moins approfondies dans ce désir d'oisiveté. Et c'est de là que j'en étais. Je crois que j'ai terminé sur une citation de Nietzsche concernant ce qu'il appelle le fatalisme russe, c'est-à-dire le soldat qui se couche dans la neige et ne bouge plus. Pour en terminer avec cette oisiveté, je voudrais vous faire part de deux ou trois sentiments ou tentations personnelles pour faire comprendre comment l'homme qui veut écrire, au sein du plus farouche et du plus tenace désir d'écrire, peut sentir passer tout de même l'autre désir, qui est le désir du rien faire, du non-agir, du rien faire, du mouveil. C'est-à-dire, pour que je comprenne moi-même cela, il me faut faire état de choses que j'ai ressenties en moi-même, avec toujours cette distinction à laquelle je tiens, entre, je dirais que je m'estime fondé à communiquer ici quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, mais pas quelque chose qui est de l'ordre du privé. Je ferai une distinction entre l'intime et le privé. Donc, il s'agit de l'intime et non pas du privé. Alors, ces réflexions personnelles sur l'oisiveté ou le non-agir, le désir d'oisiveté, comprennent les éléments suivants. D'abord, la constatation très menue, presque insignifiante, mais très répétée, qu'il faut toujours lutter dans la vie, chose banale, mais j'ajoute, il faut lutter, c'est cela que je veux pointer, il faut lutter pour les petites choses, et pour les plus petites choses. Les grands conflits, on ne parle que de ça. Mais c'est fou, le nombre de petits efforts, de menus efforts qui est imposé par la vie, dans une journée des plus ordinaires. Et on peut ressentir cette pression, cette répétition du petit effort jusqu'à l'intolérance. Par exemple, pour parquer une auto, il faut lutter. Pour trouver une place au restaurant, il faut lutter. Pour sortir, je dirais, le portefeuille de son portefeuille de la poche revolver, où il se bloque par ses coins, il faut lutter. Pour boutonner un bouton, il faut lutter. Et si je donne tous ces détails, c'est que vous pouvez prendre l'envers, ou l'endroit, disons, de ces luttes, et vous aurez une civilisation proprement idyllique. Et évidemment, non plus héroïque. Une civilisation idyllique, c'est-à-dire soit absolument aristocratique, soit absolument ascétique, c'est-à-dire une civilisation, pour reprendre mes exemples, sans auto, sans bouton, on n'aurait que des robes, tout le monde porterait des robes, rien que des robes, et des robes non boutonnées. Bah, c'est une erreur de croire que la robe soit un symbole de féminité. Vous savez très bien qu'il y a des civilisations entières, je dirais certainement historiquement et anthropologiquement plus de la moitié de l'humanité, pour laquelle les hommes s'habillent avec des robes. Une civilisation donc sans auto, sans bouton, sans portefeuille, sans poche et sans revolver, bien entendu. C'est-à-dire une civilisation du glissement, où tout glisserait. Et je dirais que c'est du même ordre un peu la sensation que j'ai eue tel matin d'été à Paris au mois d'août en regardant les pages à venir de mon agenda et en éprouvant un sentiment d'euphorie profonde, un sentiment d'aise, de libération, je dirais presque de jubilation, le sentiment d'une vérité de vie, parce que à ce moment-là, ces pages d'agenda étaient rigoureusement vides. Pas un rendez-vous, pas une tâche extérieure. Et c'était vraiment le wu-wei inespéré. Deuxième remarque, ce wu-wei est naturellement absolument insocial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire entendre, ou plus prosaïquement, il ne peut pas servir de raison ou d'excuse pour ne pas faire les choses. Une jambe cassée, j'ai déjà parlé de ce problème des excuses, n'est-ce pas, à d'autres cours. Une jambe cassée est valable pour refuser une invitation, mais pas le désir de wu-wei. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vous invite, dites-lui que vous avez une jambe cassée, ça passera. Mais ne lui dites pas que vous êtes pris du désir du wu-wei. Ce n'est pas possible. Et justement, encore une fois, cet été, dans le village où nous avons une maison, j'ai reçu une invitation à dîner et je me suis senti absolument piégé parce que à ce moment-là, je n'avais aucune excuse à ma disposition puisque on savait que dans ce village, je ne suis pris à aucun autre rendez-vous, aucune obligation. Et je dois dire que j'ai bafouillé. Je n'ai pas su comment expliquer, sans blesser, que précisément mon désir était d'être comme un tas, comme je l'ai dit, un tas qui ne bouge pas, un tas qui s'affaisse. On m'a suggéré à la sortie du cours la dernière fois que mieux encore que l'image du tas, ce serait l'image de la flaque. Eh bien oui, comme une flaque, peut-être. Et donc le désir de m'incruster dans la maison ou dans la campagne et d'être de la sorte une essence d'inactivité. Mais vous imaginez bien que ce serait du plus haut comique si au téléphone on répondait « Non, je ne viendrai pas à votre aimable invitation parce que je suis une essence d'inactivité. » Et disons que le désir à ce moment-là est d'être soustrait à cette chose qui, selon cette philosophie en tout cas, me terrifie toujours, le type d'être qui me terrifie le plus, et qui sont ce que j'appellerais les êtres à initiative. Et l'ennemi même du wu-wei, c'est effectivement l'initiative. Et ce sentiment, pour continuer sur ces semi-confidences, a pris un soir du même été, une forme romantique en moi, parce qu'il s'est trouvé lié précisément à la nature, au sens banal, le plus romantique du mot. En effet, c'était le 14 juillet dernier, et après le dîner, nous avons fait un tour en auto dans la campagne proche de la maison, et nous nous sommes arrêtés sur un chemin de hauteur qui va seulement à une ferme, et nous sommes descendus, faisait encore jour, hein. Nous sommes descendus de l'auto et nous avons été à ce moment-là entourés d'un paysage vallonné qui montre d'un côté, enfin là où j'étais, n'est-ce pas, le fleuve l'Adour qui est un fleuve extrêmement beau, au moins pendant 30 km à partir de l'embouchure, et qui est pourtant un fleuve, c'est un fleuve admirable, et c'est un fleuve pourtant qui n'a reçu jamais aucune dignité littéraire, à ma connaissance. Et c'est dommage. Donc d'un côté, l'Adour, qui est un fleuve très large à ce moment-là, et de l'autre, vers les Pyrénées, un paysage vallonné, puisque les Pyrénées commencent à s'esquisser au fond vers l'Espagne. Et l'air ce soir-là était absolument paisible, il était même inerte. Et il n'y avait pas un bruit. Il y avait juste quelques fermes blanches et brunes qui étaient piquées au loin sur les collines, à la façon basque, mais sans le terrorisme. y avait une odeur de coin coupé. Voilà, quel était le moment. Et à ce moment-là, je dirais que j'ai croisé les bras et j'ai regardé. Mais ce n'était pas pour dire, si je dis j'ai croisé les bras, parce que je fais allusion à un geste célèbre d'un Goriot de Balzac, qui j'ai croisé les bras, ça n'était pas pour dire comme Rastignac à la fin du Père Goriot devant Paris, à nous deux, hein, qui est le mot même de l'initiative et du nom Wei, c'était au contraire pour indiquer par ce geste que je vivais une sorte de point zéro du désir et que tout était en moi aussi étal que le paysage. Encore une remarque, ou si vous voulez, deux remarques, toujours sur cette oisiveté, ce Wu-Wei, une remarque moins romantique que celle que je viens de donner, parce que plus urbaine et moins campagnarde, c'est ce que j'appellerais, d'un mot un peu pompeux, un peu exagéré bien sûr, le fantasme du 15 août à Paris. Le 15 août est une journée vide, et par là même, je le considère comme une fête du vide, une fête de la déshérence, de ce qui tombe, d'une ville qui tombe pendant 24 heures en complète déshérence, c'est-à-dire qui n'appartient à personne, qui n'appartient à aucun héritage. C'est, vous le savez, le sommet de l'été social, ce qu'on pourrait appeler l'été social, qui ne coïncide pas toujours avec l'été climatique. Et on sait très bien que le lendemain du 15 août, ça va redescendre vers la socialité, vers la grégarité. Mais ce jour-là, les rues, vous le savez peut-être, certains d'entre vous en tout cas, les rues sont désertes, un peu comme dans une guerre. Il y a le silence, et cette année en particulier, il y avait le gris, le plus vieux, et les trottoirs étaient vides d'auto, ce qui d'ailleurs est plus important pour donner une impression de vide, que l'absence même d'auto qui roule, n'est-ce pas? En fait, la sensation d'encombrement par les autos que nous avons ne vient pas tellement des autos qui roulent, je crois que plutôt des autos qui stationnent le long des trottoirs. Et le 15 août, les trottoirs étaient vides. Et j'ai senti vraiment que le 15 août était comme la vraie charnière de deux années, que c'était une sorte de jour neutre, de tampon, de blanc, qui partageait les eaux, comme une cime déserte. Et c'était vraiment, je le répète, une journée de la déshérence et une fête du Wu-Wei. Après quoi, le 16, tout recommençait. Dernière remarque sur ce désir d'oisiveté, comme contre-désir de l'écrire, eh bien, l'ennemi ou la menace qui pèse sur ce désir d'oisiveté, ou sur cette philosophie, de l'oisiveté, si elle était tentée, ce serait, bien entendu, l'ennui, le risque d'ennui. Et Flaubert, par exemple, est très net là-dessus, quand lui, qui est tout entier possédé par le désir d'écrire, il dit, il a 52 ans, et il écrit à George Sand, « Moi, je ne les partage pas, vos dédains, et j'ignore absolument, comme vous le dites, le plaisir de ne et donc du côté de l'idéal du moi. Mais l'autre instance est là, à savoir le moi idéal, qui est plus ou moins bien dominé. Et par conséquent, c'est là ma thèse, si vous voulez, c'est qu'une sorte de différentiel va s'établir entre la postulation de l'idéal du moi, à savoir l'écriture, et la postulation du moi idéal, qui est un imaginaire hors écriture. Et c'est ce différentiel qui va faire marcher le sujet vers l'écriture et va le contraindre à écrire en quelque sorte infiniment, sans fin, jusqu'à sa mort. En un mot, et je résume ce que je vais un tout petit peu développer, on pourrait dire que l'écrivain raisonne ou marche, si vous voulez, ou fonctionne ainsi, il se dit je veux être un type bien, proposition énoncée par le moi idéal, je veux être un type bien, Et je veux que ça se dise et que ça se sache. Opposition énoncée par l'idéal du moi. Alors, je vais prendre ce différentiel à l'envers et dire un mot d'abord de l'écriture en ce qu'elle ne satisfait pas complètement le moi idéal, c'est-à-dire l'imaginaire du sujet qui veut écrire. L'écriture, donc d'abord ceci. L'écriture pour l'écrivain, l'écriture est d'abord et sans cesse, je pense, une position de valeur. C'est l'introjection de l'autre avec un grand A, sous les espèces d'un langage essentiel. Et quel que soit le devenir de ce sentiment, et il n'est pas simple, l'écrivain possède, et l'écrivain est constitué par une croyance narcissique première. J'écris, donc je vaux, absolument, quoi qu'il arrive. Puisque j'écris, je vaux. Classiquement, on appellerait cette croyance peut-être de l'orgueil. Et il y a un orgueil de l'écrivain, et cet orgueil est un primitif de l'activité d'écriture. Voyez par exemple, bon, un cas facile si vous voulez, mais par la même c'est intéressant. Claire, c'est le cas de Chateaubriand. Chateaubriand a eu une vie politique et une vie littéraire. Et sa vie politique a eu beaucoup d'importance pour lui. Elle emplit une très grande partie de ses mémoires d'outre-tombe. Et il y a dans ses mémoires 1000 manifestations d'autosatisfaction politique. Il revient tout le temps sur la justesse de ses positions libérales, sur sa loyauté, sur la rigueur de ses actions. Il y a un faire-valoir, un auto-faire-valoir politique constant chez Chateaubriand. Et pourtant, en lui, le primitif, l'élément primitif, c'est l'orgueil absolu de l'écrivain. Par exemple, quand il revient à Londres, vers 1822, comme ambassadeur de Louis XVIII, après y avoir été très pauvre, n'est-ce pas, dans sa jeunesse, très pauvre et inconnu, n'ayant a commencé à écrire à Londres. Alors, il y revient en 1822, c'est un ambassadeur, c'est un homme politiquement considérable, et voici comment il sent ce retour. Avec d'ailleurs un très beau verbe, vous allez voir. Cependant, une autre obscurité m'enténébrait à Londres. Une autre obscurité m'enténébrait à Londres. Ma place politique mettait à l'ombre ma renommée littéraire. Il n'y a pas un sot dans les trois royaumes, c'est-à-dire Angleterre, Écosse, Irlande, en Bretagne, disons. Il n'y a pas un sot dans les trois royaumes qui ne préférera l'ambassadeur de Louis XVIII à l'auteur du génie du christianisme. Choqué profondément. Mais bon, peu importe s'il était sincère ou non, c'est peut-être de la mauvaise foi, n'est-ce pas? Si on avait préféré l'auteur du génie christianisme, il aurait dit, mais comment, un ambassadeur, etc. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà ce qui lui vient sous la pure. C'est l'orgueil de l'écrivain comme un primitif. Et cet orgueil peut prendre évidemment des expressions plus douces et moins arrogantes. Par exemple, je trouve cette phrase dans 4-4. Ce soir, je me suis senti de nouveau plein d'un talent anxieusement contenu. C'est beau. Pas du tout arrogant. Ce soir, je me suis senti d'un talent anxieusement contenu. Car en effet, paradoxalement, cet orgueil de l'écrivain peut être, si je puis dire, modeste. Il peut être modeste car il ne porte pas forcément sur telle œuvre contingente. C'est pas, chez tous les écrivains, il y a des déclarations de doute sur la qualité de l'œuvre qu'il vient de faire, par exemple. Mais ceci ne contredit pas l'orgueil profond du statut de l'activité d'écrivain. Car écrire comme idéal du moi, c'est cela qui est souverain, c'est cela qui est exaltant. Écrire est un acte de faire valoir. Et ce faire valoir, bien sûr, est miné sans cesse par le doute qui porte sur l'œuvre contingente, mais se faire valoir n'est jamais liquidé. Il y a une ruse permanente qui retourne le doute lui-même en faire valoir. Parce que, par exemple, je peux écrire une œuvre, par exemple un journal intime, où, très pathétiquement, je vais assumer dans tel ou tel fragment de ce journal intime, en la déclarant une perte ou une dégradation de mon talent. Ça, ça arrive dans les journaux intimes, on trouve, nous avril, je constate avec désolation que je n'ai plus aucun talent, c'est fini, etc., etc. Mais même là, si j'écris que je vaux moins, eh bien, par là même, parce qu'il y a écriture, je déclare que je vaux plus. Donc, il n'y a rien à faire. Le faire valoir est absolument consubstantiel à l'écrire, quel que soit le contenu de cet écrit. Et cependant, contradictoirement, et c'est ici que commence la dialectique qui fait fonctionner l'écrivain, il engage dans une écriture infinie, plus forte que les rêves de Wu Wei, se faire valoir de l'écriture est intimement pénétré d'un sentiment déceptif, d'un sentiment de perte de valeur. J'écris, donc je m'assume moi-même, et à lui-moi, mais en même temps, je constate que, eh bien non, ce que j'ai écrit n'est pas tout moi. Il y a un reste, quoi que j'écrive, il y a un reste qui est extensif à l'écriture, un reste que je n'ai pas dit, que je n'ai pas su dire, que je n'ai pas pu dire, et ce reste fait ma valeur entière. Et par conséquent, il me faut à tout prix ce reste, le dire, le communiquer. Il me faut me monumentaliser entièrement. Et aboutir à cette proposition qui est toujours « Je vaux plus que ce que j'écris. Je vaux plus que ce que j'écris. » Elle serait la devise intérieure de l'écrivain ou d'un certain type d'écrivain, ou en gros romantique. Alors, ce reste ou ce surplus, ou ce laisser pour compte de l'écriture, que l'écriture doit sans cesse rattraper, ce sursis que je dois exploiter en écrivant donc de nouveau et à l'infini, c'est bien entendu, il est du coup, ce reste c'est le moi idéal, une formule qu'il exige, qu'il le demande, et c'est bien entendu, ce reste fonctionne comme une espèce de protension qui est imposée à l'idéal du moi, à l'écriture, par le moi idéal. Deuxièmement, en effet, le moi idéal de l'écrivain. Eh bien, ainsi se met en branle une sorte de surenchère, c'est-à-dire que, à la limite, à une limite qui est ressentie comme parcimonieuse de l'écriture, s'oppose le vœu ardent d'une écriture à venir dans mon destin qui soit une écriture totale, une écriture qui me dise entièrement, enfin j'insiste sur total et entièrement, et qui jette sur la scène du langage tout mon imaginaire, tout mon imaginaire. Écoutons Kafka formuler précisément la demande de l'entièrement, entièrement. J'ai en ce moment, et je l'ai déjà eu cet après-midi, un grand besoin d'extirper mon anxiété en la décrivant entièrement. Enfin, j'insiste sur entièrement. Et de même qu'elle vient des profondeurs de mon être, de la faire passer dans la profondeur du papier ou de la décrire de telle sorte que ce que j'aurais écrit pût être entièrement compris dans mes limites. Ce n'est pas un besoin artistique, ajoute-t-il. Ajoute, ce n'est pas un besoin artistique. Et oui, bien sûr, parce que le besoin artistique, si c'était un besoin artistique, ce serait du côté de l'idéal du moi, ce serait du côté du symbolique. Mais ici, nous sommes au-delà ou en deçà, nous sommes dans la vaste région de l'imaginaire, c'est-à-dire du moi idéal. Il s'agit donc d'une postulation extensive, et c'est pourquoi la formule que je propose n'est pas « je vaux mieux que ce que j'écris », je vaux mieux que ce que j'écris, ce n'est pas une bonne formule, il faut dire d'une façon plus cynique et plus triviale, je vaux plus que ce que j'écris. Non pas mieux, mais plus. C'est une question de quantité. L'œuvre n'a donc jamais une pure et seule finalité artistique, sauf par alibi théorique, c'est-à-dire un alibi qu'on se donne après coup, un alibi qui est vécu très sincèrement, n'est-ce pas ? Nous n'en sommes pas maintenant, nous n'en sommes plus à séparer la sincérité de la non-sincérité. Tout est sincère, donc regardez, ça n'a aucun intérêt de demander ce qui est sincère ou non. Et pour Flaubert, par exemple, bien sûr, Flaubert a vécu sous l'instance d'un alibi esthétique, hein ? Mais en fait, ça n'est qu'un alibi. Le vrai, c'est, si vous voulez, c'est un problème topologique. Pour l'écrivain, il s'agit d'épuiser un espace, l'espace imaginaire, qui en fait est précisément inépuisable. La définition même de l'imaginaire, c'est d'être inépuisable. Et nous allons revenir à l'instant dans cet épuisable, inépuisable, parce que c'est là que réside la marche de l'écrivain. Alors, en attendant, de quoi peut être fait cet entièrement, il faudrait dire, pour satisfaire, on n'y arrive jamais, mais disons pour satisfaire ce moi idéal, de quoi est-ce qu'il est fait cet entièrement? Eh bien, je vais dire comment je le sens, moi, et bien sûr, une fois de plus, si je me replace ici, dans le cours, et non pas Kafka ou Flaubert, c'est par logique pour rester conforme au sentiment ou à la postulation qui est à l'origine de ce cours et que j'ai déclaré au début de l'année dernière en expliquant ce que j'entendais par préparation du roman comme œuvre par laquelle on dit un certain amour du monde. Alors, de quoi est fait cet entièrement? Eh bien, premièrement, ceci. D'une façon générale, le moi idéal, donc imaginaire, auquel je réfère et qui est comme le surplus inexprimé d'écriture, fonctionne, si vous voulez, comme l'opposition thématique entre ce qui est sec et ce qui ne l'est pas. La sécheresse, l'écriture est vécue comme une sécheresse. L'écriture est du côté du sec, et j'ai envie d'opposer à cette sécheresse de l'écriture, à cette non-sentimentalité, si vous voulez, de l'écriture, j'ai envie d'opposer ce qui en moi n'est pas sec, ce qui en moi n'est pas froid, ce qui en moi est chaud, chaleureux, sentimental, ému, généreux. J'ai envie d'opposer à l'écriture, comme on aurait dit autrefois, le cœur. Et ceci, donc, j'ai envie d'opposer ou de compléter l'écriture par la représentation de l'espace infini de ce que j'appellerais l'âme aimante. L'écriture, postulativement, ça veut dire, ça implique que je veux me dire, mais je veux me dire aimant. Et le mouvement du moi idéal, qui est resserré dans l'idéal du moi d'écriture, c'est précisément de dépasser l'égotisme au profit non pas d'une généralité, mais d'un amour général, ce qui est différent. Par exemple, muter ou dialectiser l'éros en agapé. Et il me semble que c'est parce qu'il y a toujours sous l'idéal du moi qui contraint l'écriture, qui permet l'écriture. Il n'y a pas d'écriture sans idéal du moi. Il me semble que c'est parce qu'il y a toujours sous l'idéal du moi un moi idéal en incessante expansion que précisément la littérature a toujours quelques rapports avec l'amour. Et même chez les êtres, disons, les plus... Enfin, donc, dont le texte est un miracle de pudeur et de distance, je pense à Pascal, on trouve cette postulation. Enfin, quand il dit, il faut plaire à ceux qui ont les sentiments humains et tendres. Il faut plaire à ceux qui ont les sentiments humains et tendres. Et je pense qu'en définitive, l'écrivain n'écrit pas pour être admiré, approuvé ou critiqué, s'il est masochiste. Mais disons que s'il écrit pour être admiré, de toute manière, je ne pense pas que ça soit très... Enfin, ça dure quelques minutes. Le désir d'être admiré ne peut absolument pas... peut absolument pas motiver, comme on dit maintenant, une œuvre. Pas possible, c'est trop faible. Je sais que, par exemple, pour ma part, les compliments d'écriture, enfin d'écrivain, certes, je ne dis pas du tout, je ne suis pas un ascète, je ne suis pas un philosophe, un stoïcien, ça me fait plaisir. Mais ça me fait plaisir 5 minutes, pas plus. Après, ça tombe. C'est pas vrai, c'est pas authentique. Et au fond, il y a quelque chose en moi qui désire profondément qu'on ne parle pas de moi, ni en bien, ni en mal. Parce qu'en fait, je l'ai écrit, je le redis, je le pense, on écrit, ou certains écrivent, le type d'écrivain auquel je pense écrit pour être aimé. Pour être aimé, mais précisons, pour être aimé de quelques-uns et pour être aimé de loin. Sinon, on n'écrirait pas. L'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut être aimé de loin. Alors, cette dialectique... Attendez, non, c'est pas fini, là. Oui, donc, c'était ma première remarque. Ma seconde, sur le moi idéal, c'est que le moi idéal d'un écrivain vaut toujours comme le moi d'un homme, d'un sujet, et non pas d'un écrivain. Pas. Mon moi idéal, je l'exprime, je l'énonce, je le sens, non pas comme le moi de celui qui écrit, mais comme le moi de l'homme, le général, que je suis. Et à ce moment-là, il semble à l'écrivain, à cet écrivain, que l'écriture doive être subordonnée à la manifestation de l'humain individuel, dont précisément l'écriture, pense-t-il, n'est qu'un appendice. Encore une fois, je vaux plus que ce que j'écris. Voilà ce que dit le moi idéal. Par exemple, un écrivain comme Gide a joué d'une façon très retorse, vous le savez, de cette dialectique et de ce tourniquet entre l'œuvre et l'homme. Il a sans cesse travaillé à ce qu'on le chérisse, à ce qu'on l'aime, à ce qu'on s'intéresse à lui, en face de l'œuvre et par rapport à l'œuvre. C'est le rôle du journal de, justement, témoigner pendant 50 ou 60 ans, je ne me rappelle plus les dates, de cette espèce de dialectique extrêmement retorse, et en fait, qui fonctionne très très bien, ou qu'il a su très bien faire fonctionner, entre l'œuvre et l'homme, n'est-ce pas ? Regonflant l'œuvre par le surplus de l'homme et réchauffant aussi l'œuvre par ce qu'on savait de l'homme et sacralisant l'homme parce qu'il y avait une œuvre derrière ou à côté. Et le problème, c'est que, évidemment, dès que le moi idéal s'écrit, dès qu'il arrive à s'écrire, bon, il devient écriture et par là même, il passe du côté de l'idéal du moi, et que tout est à recommencer à l'infini. Troisième remarque, toujours pour le moi idéal, c'est que le moi idéal se sentant plus grand, comme je l'ai dit, plus grand que l'écriture, pas je vaux plus, voudrait pouvoir témoigner de lui-même, c'est-à-dire de ses intentions, de ses qualités, et du fait qu'il est un type bien. Pas dire les choses autrement que très simplement comme ça, le moi idéal veut faire comprendre que je suis un type bien. Et par conséquent, je veux que quelqu'un porte témoignage et rende justice, devienne garant de mon moi. Garant, c'est-à-dire en latin, auctor, auctor, c'est-à-dire auteur. Il veut être auteur de lui-même. Et il veut que son écriture témoigne de tout ce qui, en lui, dépasse l'écriture. Et donc, Je répète, en ce qui me concerne, je puis constater, il m'arrive de constater avec tristesse, mais c'est une constatation qui est faite par mon moi imaginaire, enfin, mon moi idéal. Donc mon moi idéal constate quelquefois, avec tristesse, que mon écriture entraîne dans l'opinion publique, journalistique, des reproches, des malveillances, d'intellectualisme, de défauts d'instinctuel, de défauts de spontanéité, de défauts de chaleur, sont adressés à une personne au feutré. Car, hélas, feutre en français n'a pour rime que neutre et pleutre. C'est très agréable. C'était l'un des thèmes du colloque de Cerisy, il y a deux ans, que ce thème du feutré. Alors, parfois, je constate effectivement que mon écriture a cette image-là. Et à ce moment-là, je le constate avec tristesse, parce que, effectivement, je me rêve autrement. Je m'imagine autrement, je me sens autrement. Et je peux rêver, par conséquent, d'une autre écriture, d'une contre-écriture, qui dirait de moi, qui imposerait au monde, donc rôle de idéal du moi et d'écriture, qui imposerait au monde une image contraire que je sens exister, même bouillonner en moi, à savoir l'émotivité, la sympathie, l'indignation, toutes les valeurs justement de la passion. Et par conséquent, si je me laissais aller à prendre à la lettre le reflet, certains reflets de mon moi idéal déformé par l'écriture, eh bien, je serais obligé de constater que mon moi idéal ne coïncide pas avec mon écriture. Et que, parfois, je peux souffrir de ce hiatus et que je voudrais le réduire, l'annuler en produisant enfin une nouvelle écriture exacte qui me disent tout entier, car exact veut dire qu'il me dirait tout entier. Et ça, c'est le rêve d'écriture, c'est se dire tout entier. Et bien entendu, la course recommence. Je ne peux pas être satisfait du témoignage que je me porte si je ne l'étends pas aux autres, car que puis-je valoir si je ne rends pas justice aux autres? Or, créer l'autre, savoir créer l'autre, c'est évidemment le rôle du roman. Le roman, c'est encore peut-être un acte d'écriture, un acte ample, difficile, complet, par lequel on crée l'autre. Et d'où le souhait et la décision annoncée au début du cours de l'année dernière de mettre le roman au grand projet, étant entendu que j'appelle roman non pas tel genre historiquement déterminé, mais toute œuvre où il y a transcendance de l'égotisme, non vers l'arrogance de la généralité, par exemple la science, ou l'essai, ou la critique, mais vers la sympathie, sympathie avec l'autre. Sympathie en quelque sorte mimétique, et là, et bon, il n'y a pas d'autre mot, vous savez que tous les mots qui sont des mots d'amour sont des mots dans la langue française en tout cas aujourd'hui discrédités, enfin, ils sont toujours marqués d'un certain ridicule. Alors il n'y en a pas. Alors il faut accepter, il faut les prendre tels qu'ils sont. Moi j'emploierais volontiers le mot de compassion. Pourquoi? C'est un mot très discrédité. Mais si je l'emploie, c'est parce que Rousseau en a fait ce qu'on appelle un philosophème. Rousseau lui a donné une dignité philosophique. Et cette dignité n'est pas de type théorique. Donc j'emploierai volontiers le mot compassion. Et c'est cela donc que le roman, enfin ce que j'appelle roman, a à charge de prendre en charge, précisément, c'est la compassion. Et le roman serait considéré à ce moment-là comme une expansion, une volonté d'expansion du moi idéal. Je s'écoute un petit peu. Et donc, j'ai posé ces deux termes, n'est-ce pas, l'idéal du moi et le moi idéal. Et je dis que à partir de là s'établit une sorte de mécanique entre ces deux termes et une mécanique infinie. Car à partir du moment où on a commencé d'écrire, il s'établit entre l'écriture et le moi idéal, c'est-à-dire le moi imaginaire, un mouvement, une mécanique de relance, de rattrapage ou de surenchère qui oblige à écrire toujours, toujours plus loin, toujours en avant, et rend difficile, sauf grave mutation psychologique, de cesser l'écriture, soit, comme je l'ai dit, par sabordage, soit par conversion au new way, à l'inactivité. Et cette surenchère peut se décrire ainsi. Dans un premier temps, on dit « Aimez-moi, car je vaux plus que ce que je parais. Aimez-moi, je vaux plus que ce que je parais. Voyez ce que j'écris. » Ce que j'écris témoigne que je vaux plus que ce que je parais. Et puis dans un second temps, on dit « Aimez-moi parce que je vaux plus que ce que j'écris. Aimez-moi parce que je vaux plus que ce que j'écris. Voyez ma nouvelle œuvre, l'œuvre à faire. Vous verrez plutôt ma nouvelle œuvre, l'œuvre à faire. » Par conséquent, idéal du moi et moi idéal ont entre eux un rôle réciproque de régulation. Quand le moi idéal, voulant dans son mouvement d'amour tout dire, tout exprimer, se trouve bloqué par encombrement, parce que c'est une cause importante d'aphasie d'écriture, l'encombrement, hein, eh bien à ce moment-là, l'idéal du moi intervient et impose une forme viable qui est l'écriture. Mais en face, quand l'idéal du moi va trop loin et laisse au sujet qui écrit le sentiment qu'il pourrait dire plus du meilleur de lui-même, le moi idéal à son tour réintervient, relance et réanime. Et ainsi va l'écriture. Alors cette mécanique, je l'ai esquissée à partir de notions psychanalytiques, traitées évidemment grossièrement et d'une façon trop tranchée, probablement. Mais cette mécanique, je peux la dire aussi, et je crois d'une façon peut-être plus frappante, je parle de la mécanique elle-même et non des termes en jeu, je peux la dire en termes sartriens. Vous savez que pour Sartre, je ne sais pas si vous savez, parce que ça se lit plus beaucoup, le Sartre philosophe. Hein. Mais disons que pour Sartre, le Sartre, donc philosophe, des années qui ont suivi la libération, philosophe et écrivain, bien sûr. Pour Sartre, donc, une fois mort, on n'existe plus que par l'autre. Et encore, le verbe exister est déjà faux. On n'existe plus que par l'autre. Et autrui, pour Sartre, c'est ce qui vous fixe objectivement. Et ignore à jamais votre subjectivité, c'est-à-dire votre liberté. Autrui, c'est ce qui ignore ma subjectivité, le sujet que je suis, et donc ignore ma liberté. Or, je l'ai dit au début, écrire n'est pas sage. Écrire n'est pas sage en ceci que c'est se remettre entièrement et complètement au regard ou à la lecture, c'est la même chose, de l'autre. Écrire, puisqu'écrire c'est du côté de l'idéal du moi, du symbolique et du langage. C'est-à-dire que quand j'écris au terme de mon écriture, l'autre fixe objectivement ma subjectivité et par conséquent il nie ma liberté. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure en disant que j'écris et par exemple je suis lu par certains comme hyper-intellectualiste. Alors à ce moment-là, ma liberté est niée, n'est-ce pas? Je suis objectivé, exactement comme un papillon qui est piqué, qui est endormi, enfin, endormi, c'est-à-dire, et qui est piqué dans sous verre, l'autre me pique, m'objective et nie ma liberté. Et par conséquent, il me met exactement dans la position du mort. Écrire et accepter d'écrire, vouloir écrire, c'est accepter à un certain moment d'être dans la position du mort. Prenez cette expression dans tous les sens que vous voulez, même dans le sens du bridge, vers le mort. Or, bien sûr, qui écrit accepte difficilement, ou du moins accepte, ne peut pas accepter définitivement, cette position qui est engendrée fatalement par l'écriture. Quand j'écris, je peux accepter un instant, par narcissisme, léger et futile. Je peux accepter un instant le monument, car le monument narcissise. Enfin, je peux accepter, par exemple, il y a des formes d'honneur littéraire, je pourrais dire de plus en plus rares, qui constituent des monuments. Mais ça peut me faire plaisir, comme je l'ai dit, 5 minutes, hein. Mais pas plus. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que le monument, c'est ce qui narcissise, mais c'est aussi ce qui embaume. Et si on voulait faire une mythologie, par exemple, de l'Académie française, on pourrait très facilement la décrire comme image dans l'opinion publique, comme quelque chose qui est à la fois narcissise et embaume. Avec les plaisanteries sur immortel, c'est-à-dire mort, en même temps honneur, narcissisant, élite, etc. Donc, c'est une mythologie absolument ambivalente. Alors, bien sûr, ce monument qui embaume, l'écrivain travaille à le défaire. L'œuvre écrite, lui mort, il veut toujours protester d'un supplément de subjectivité et de liberté, c'est-à-dire qu'il veut vivre encore. Une fois que j'ai écrit une œuvre et que je l'ai publiée, je suis mort quant à cette œuvre. Et au niveau de cette œuvre, je me suis rendu mort. J'ai la place du mort. Et comme je veux vivre, je n'ai pas d'autre solution que de me mettre immédiatement, c'est le cas de Georges Sand, à écrire une autre œuvre. C'est comme ça que je vais vivre et que je vais surmonter la place du mort. Mais bien entendu, l'œuvre ainsi faite va se solidifier de nouveau et ainsi de suite jusqu'à la vraie mort, la mort charnelle. Et c'est pour cela que contre toute sagesse, on décide d'écrire et d'écrire encore. Et c'est pour cela qu'il y a si peu, vraiment si peu d'écrivains qui se soient sabordés. Alors à partir de cette analyse, j'ai fini dans 2 minutes pour cette première partie du cours, à partir de cette analyse, ou de cette proposition d'analyse, une typologie bien sûr très lâche des écrivains passés peut être présentée. Par exemple, on aurait un groupe, un premier groupe, où on mettrait les écrivains dont la volonté d'œuvre inclut et intègre sans cesse, je dirais, le travail potentiel du moi idéal, du moi imaginaire, et qui donc continue à écrire pour rendre justice à ce moi. Ils ne sont jamais satisfaits de la façon dont leur dernière œuvre a rendu justice à ce moi imaginaire, et qui donc sont protendus en avant pour écrire une auteure qui, elle, pense-t-il, va rendre justice à ce moi imaginaire selon le schéma qu'il décrit. Je crois que les types exemplaires de ce groupe, ce seraient Rousseau et Chateaubriand, c'est-à-dire évidemment des écrivains qui ont tendance au journal, aux confessions et à la correspondance. Alors, ceci comporterait bien sûr toute une gamme d'intensités. On peut dire que Flaubert et Proust sont des écrivains qui n'ont pas rompu avec le moi idéal, donc qui ont maintenu en eux cette dialectique entre l'idéal du moi et le moi idéal, mais et qui n'ont pas mutilé le moi idéal et qui l'ont dialectisé à travers une grande écriture romanesque, mais en gardant aussi un mode d'expression du moi imaginaire, à savoir la correspondance dans les deux cas. Correspondance énorme et qui a, vous savez, valeur d'œuvre. Alors, le second groupe en face, bien sûr, le groupe contraire, ce serait le groupe des écrivains qui ont accepté, dans l'écrivain que chacun se veut, la mort du moi idéal, de l'individu, du monsieur. Ils ont accepté l'œuvre comme mort, l'œuvre comme monument. Et le prototype serait Mallarmé. Mallarmé ne dit pas mort, mais il dit néant. Vous connaissez le problème du rôle de Hegel dans sa pensée. Et par exemple, Mallarmé, disant à Camille Beauclerc qui lui posait des questions sur ses origines, c'est-à-dire sur son moi individuel, n'est-ce pas ? Et bien entendu, le moi idéal, c'est-à-dire le moi imaginaire, sa première tâche est de récupérer le discours des origines, le roman, l'autobiographie, le roman familial, n'est-ce pas ? Et à Mallarmé, à qui on posait des questions sur ses origines familiales, Mallarmé a répondu, je vais essayer de faire cette réponse, on ne dira rien, il dit même pas je, il dit on ne dira rien, car rien ne vaudrait la peine. Je n'existe, et si peu, que sur le papier. Encore est-il blanc, préférablement. Alors aujourd'hui, la pure figure de ce type de négativité serait évidemment Blanchot. Par exemple, Blanchot écrit « Chaque fois que l'artiste est préféré à l'œuvre, chaque fois que l'artiste est préféré à l'œuvre, cette préférence, cette exaltation du génie, signifie une dégradation de l'art, le recul devant sa puissance propre, la recherche de rêves compensateurs. » Alors, je dois dire que j'admire énormément Blanchot, et même j'admire ce genre de proposition, mais cela me paraît tout de même trop figer les choses, précisément sur l'opposition entre personnel et impersonnel. En réalité, il y a une dialectique propre à la littérature, et je crois que c'est une dialectique d'avenir, en tout cas d'avenir immédiat, qui fait que le sujet peut être le sujet humain, le sujet lui-même, le sujet de l'auteur, l'auteur, si vous voulez, le sujet écrivain, peut être livré comme une création d'art. Et c'est ce qui se passe, bien entendu, dans ce que j'ai appelé le marcellisme, à propos de Proust. L'art peut se mettre dans la fabrication même de l'individu. Et à ce moment-là, l'homme s'oppose moins à l'œuvre s'il se fait lui-même une œuvre, s'il fait de sa vie une œuvre. Alors on pourrait aussi, dernière remarque, imaginer d'esquisser une typologie historique des écritures en fonction du « je », « je », vous savez que « je », « je » est le pronom de l'imaginaire, proche du moi idéal, on peut dire que chaque fois qu'on dit « je », on est dans l'imaginaire. Eh bien, on aurait la typologie historique suivante, Dieu sait si elle est brutale, plutôt un « je », je vous livre, « je ». Premièrement, le « je », « je » est haïssable, classique, l'éclate. Le « je » est adorable, les romantiques. Le jeu est démodé, et moderne. Et moi, j'imagine un classique moderne dont le jeu serait triché. Un certain est triché. Voilà, nous allons arrêter 5 minutes. Et... Alors, je reprends parce que je voudrais terminer cette sorte d'introduction avant la fin de l'année. Quelqu'un m'a fait passer l'information suivante, et donc je vous la livre, elle est toute chaude, c'est que dans Cyrano de Bergerac, il est question de l'Adour, du fleuve Adour, et de son coude précisément, qui est très beau, et effectivement, ça n'a rien d'étonnant, puisque Edmond Rostand avait une très belle propriété au Palais de l'Adour, à Cambeau, qui était qu'on peut encore visiter. Bon, alors j'avais dit que après l'introduction, je m'arrêterai pour une sorte d'exercice que dans la comédie antique, la comédie grecque, on appelait la parabase. C'est-à-dire, c'est le moment où l'acteur principal vient sur le devant de la scène, pas devant le rideau parce qu'il n'y avait pas de rideau, mais enfin l'équivalent, et au nom de l'auteur, alors, se met à tenir un certain discours qui est le discours de l'auteur, et non pas le discours de l'acteur. Alors moi aussi, j'ai ma part à base à faire, c'est-à-dire à pointer quelques positions de méthode pour ce qui va suivre. Je dirais d'une façon générale que le cours, aussi bien l'année dernière que cette année, découle d'un intérêt général que j'ai eu l'occasion déjà d'écrire à propos de la musique, à propos de la peinture, donc d'un intérêt général pour l'amateur, pour celui qu'on appelle un amateur, et pour les pratiques et pour les valeurs de l'amateur. Alors, c'est donc sous le signe de l'amateur que je vais parler méthode. Quelle méthode? Celle qui a été posée au début du cours de l'année dernière et que j'appelle la méthode de simulation. En effet, je simule celui qui veut écrire une œuvre. Je n'ai pas à dire si je suis ou je ne suis pas celui-là. Je dis simplement, je simule celui qui veut écrire une œuvre. Je ne suis pas très bon méthodologue, mais je suppose que dans un exposé de méthodologie générale, il y aurait tout un chapitre à faire sur la simulation, car comme méthode, elle existe dans les sciences expérimentales, à titre de médium de recherche. C'est très fréquent, on construit un dispositif, on provoque des causes pour produire des effets, et on étudie la liaison des causes artificiellement produites et des effets étudiés. Par exemple, on construit de petits bassins artificiels et puis on a des simulateurs de tempêtes. Eh bien, l'objet produit par la simulation et pour la simulation, disons que c'est une maquette. C'est une maquette, qui vient de l'italien maquietta, qui veut dire la petite tâche. Hein? Macula, la tâche, maquietta, la petite tâche, l'ébauche. J'aurais évidemment à philosopher sur l'idée de l'œuvre ou de certaines œuvres comme tâche, macula, tâche sans accent circonflexe, macula, tâche à aménager. Hein? Le prototype étant la tâche sur le mur de Léonard de Vinci. Et à la tâche sans accent circonflexe, c'est-à-dire ce qui salit, macula, maquietta, s'oppose bien sûr la tâche avec un accent circonflexe, qui est rattachée au verbe de bas latin taxare, ouvrage à exécuter dans un temps fixé, alors que tâche sans accent circonflexe se disait au Moyen-Âge eche, T-E-C-H-E, et voulait dire marque distinctive. Alors, l'étymologie de ce tâche français est très compliquée, il paraît que c'est une étymologie gothique, mais je n'aime pas, et je ne sais pas pourquoi, je n'aime que les étymologies latines. Alors, je voudrais faire remarquer que dans l'ordre épistémologique, il existe des formes démonstratives apparentées à la maquette, c'est-à-dire à la simulation d'un objet artificiel qui donne toute commodité de réflexion, de manipulation analytique. Par exemple, le cas de dire, l'exemple, exemplum, l'exemple est une maquette. L'exemple de grammaire, ou l'exemple linguistique, puisque la linguistique moderne se sert d'exemple, l'exemple de grammaire est une maquette. C'est une maquette de phrase, de laquelle on fait découler, ou on illustre une règle. Donc, l'exemple de grammaire, c'est une maquette de phrase, c'est une phrase maquette. Autre maquette, la métaphore. Certains types de métaphores, disons des métaphores illuminantes, je vais vous en citer une, c'est celle qu'emploie Diderot lorsqu'il veut décrire dans l'encyclopédie la machine à faire les pas. Et il en fait la métaphore, c'est-à-dire la maquette, d'un type de raisonnement. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, il m'a toujours beaucoup plu. C'est donc dans le... C'est donc dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, à l'article bas. Bas, bonnetterie, etc. Voici la description du bas au métier et la manière de s'en servir. Le métier à faire des bas est une des machines les plus compliquées et les plus conséquentes que nous ayons. On peut la regarder, c'est ça qui est très beau, on peut la regarder comme un seul et unique raisonnement, dont la fabrication de l'ouvrage est la conclusion. Aussi règne-t-il entre ces parties une si grande dépendance qu'en retrancher une seule ou altérer la forme de celles qu'on juge les moins importantes, c'est nuire à tout le mécanisme. Et il dit plus loin, voici comment M. Perrault s'en exprime, etc., dans un ouvrage qui plaira d'autant plus qu'on aura moins de préjugés. Ceux qui ont assez de génie, non pas pour inventer de semblables choses, mais pour les comprendre, tombent dans un profond étonnement à la vue des ressorts presque infinis dont la machine à bas est composée, et du grand nombre de ces divers et extraordinaires mouvements. Quand on voit tricoter des bas, on admire la souplesse et la dextérité des mains de l'ouvrier, quoique il ne fasse qu'une seule maille à la fois. Qu'est-ce donc, quand on voit une machine qui forme des centaines de mailles à la fois, c'est-à-dire qui fait en un moment tous les divers mouvements que les mains ne font qu'en plusieurs heures? Combien de petits ressorts tirent la soie à eux, puis la laissent aller pour la reprendre et la faire passer d'une maille dans l'autre d'une manière inexplicable? Et tout cela sans que l'ouvrier qui remue la machine ne comprenne rien, en sache rien, et même y songe seulement, en quoi on la peut comparer à la plus excellente machine que Dieu ait faite, etc. Description idyllique, n'est-ce pas, alors qu'en réalité, elle contient en germe d'énormes conflits sociaux du XIXe siècle, et même d'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'informatique ayant relayé la machine à bas. Donc, des ouvrières qui travaillent en province à la construction de l'ordinateur sont exactement dans la situation de sans que l'ouvrier ne comprenne rien, en sache rien, et même il songe seulement, etc. Alors, c'est une très belle métaphore et c'est une maquette pour dire le psychisme, justement. C'est-à-dire des éléments très nombreux, des mouvements divers et extraordinaires, tirer, laisser aller, faire passer la maille d'une façon inexplicable, tout cela va très bien au psychisme. Donc, premier type de maquette, de simulation, l'exemple et la métaphore. Deuxième type, l'abîme, la distinction que je proposerai entre abîme au sens de mettre en abîme et maquette. En effet, dans l'ordre de la littérature, dans l'ordre du texte, il arrive que l'œuvre elle-même, c'est-à-dire le produit qui est sacré et consacré comme œuvre, soit ouvertement donné comme une simulation d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des cas où certaines œuvres mettent en scène leur propre fabrication. Alors là, je propose de distinguer entre d'une part la structure en abîme et d'autre part l'œuvre maquette. Alors la structure en abîme, c'est une œuvre dans une œuvre, c'est-à-dire comme on a un tableau dans un tableau. Par exemple, la galerie de tableaux de Watteau, c'est un tableau qui représente une galerie de tableaux. C'est une construction en abîme. Je dirais que, en un certain sens, Palude de Gide, c'est une œuvre en abîme, puisque le titre de l'œuvre 1 passe dans le titre de l'œuvre 2. Encore, le roman auquel travaille Roquentin dans La Nausée, c'est une œuvre qui est dans l'œuvre. Et la référence à la peinture, même plutôt à la héraldique, à la science héraldique, puisque c'est l'origine du mot abîme, A-B-Y-M-E, n'est-ce pas, indique bien qu'il s'agit d'un rapport plat, d'un rapport statique, et que, qui est évidemment la forme privilégiée d'un rapport d'échec, puisque par exemple, palude ne s'écrit pas, et seul s'écrit, seul finit par s'écrire le palude de palude. Alors en face, il y aurait ce que j'appelle l'œuvre maquette, qui se présenterait comme l'œuvre donnée dans sa propre expérimentation, c'est-à-dire qui met en scène une production, ou en tout cas un dispositif pour produire effectivement, et non plus seulement la velléité de produire. Ce serait le cas, me semble-t-il, de la Vita Nova de Dante, puisque le récit, vous savez comment est fait cette Vita Nova, il y a un récit, comme dans un roman, et puis ce récit est entrecoupé par des poèmes. Alors, le récit amène le poème, mais naturellement, en fait, il paraît que ça a été écrit après coup, enfin, peu importe, le récit amène le poème, et le poème se couronne rétroactivement de l'exposé rhétorique de sa composition. C'est-à-dire, Dante dit comment il a construit le poème. Alors, il y a trois choses, si vous voulez. Il y a, d'une part, le récit d'un amour, le récit romanesque d'un amour, le poème, et puis l'analyse rhétorique du poème. Ou encore, dans Gide, les faux monnayeurs plus le journal des faux monnayeurs. Ou encore, dans Edgar Poe, exemple célèbre, le corbeau et son commentaire producteur, c'est-à-dire le commentaire de la production du poème, bien que, encore une fois, il paraît que le commentaire ait été écrit après coup. C'est donc un commentaire truqué. Enfin, Poe a l'air de dire, voilà comment j'ai procédé pour faire ce poème, alors qu'en fait, il a fait le poème et ensuite il a expliqué tout à fait illusoirement comment il s'était donné la tâche pour le fabriquer. Alors, un cas très retors, ce serait bien entendu, comme toujours, la recherche du temps perdu, parce que visuellement, elle est à la fois une œuvre en abîme, à savoir que dans la recherche, il y a en abîme le roman que le narrateur veut faire, mais dont il constate qu'il ne peut pas le faire, c'est l'échec du vouloir écrire, n'est-ce pas ? Et puis, ensuite, il y a aussi une œuvre maquette, puisque finalement, ce roman, qu'il veut écrire et qu'il ne peut pas écrire, se trouve être la recherche du temps perdu même. C'est-à-dire que quand il voit qu'il va pouvoir écrire, à ce moment-là, il s'arrête parce que l'œuvre a été faite, précisément. Comme si la maquette fondait, se dissolvait au profit de tout ce qu'elle draine et drague. Il y aurait d'ailleurs c'est assez intéressant ce problème des œuvres construites à plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Je vous signale un cas de situation maquette un peu triviale, car il s'agit de pornographie, mais intellectuellement intéressant. Supposer un film pornographique. Supposer une salle de cinéma pornographique. Le film qui est projeté sur l'écran, à un certain moment, passe une scène qui représente une salle de cinéma. Et dans cette salle de cinéma projetée, on voit de dos deux partenaires qui sont en train de regarder sur l'écran, le second écran, une scène d'action érotique. Alors à ce moment-là, on a, disons, une structure en abîme. Mais si vous supposez que les spectateurs filmés se mettent eux-mêmes à produire entre eux les gestes de la scène filmée sur l'écran qu'ils regardent, vous avez une œuvre en maquette. Et de plus, vous pouvez imaginer ce jeu à l'infini, et un troisième degré, si les spectateurs réels de ces deux spectacles deviennent à leur tour des partenaires érotiques. Et je vous laisse compléter ce petit dossier des œuvres abîmes et des œuvres maquettes. Troisièmement, donc premièrement, exemple métaphore, deuxièmement, abîme, maquette proprement dite, troisièmement, dans l'ordre de la critique ou de la théorie littéraire, de l'enseignement de la littérature, j'avoue, dans l'ordre de l'enseignement de la littérature, je ne connais pas de recours à la simulation comme méthode. Certainement que dans l'enseignement rhétorique ancien, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle, on pratiquait très probablement des simulations à des fins pédagogiques. Enfin, on faisait des vers latins pour bien comprendre comment étaient faits les vers latins. Maintenant, je ne crois pas que dans l'enseignement, il y ait vraiment d'activité de simulation. Et je le regrette, en tout cas en ce qui concerne la critique alors proprement dite, parce que j'y verrais un avantage, une combinaison nouvelle de l'annexe intellectuelle et précisément de la subjectivité comme force de désir. C'est-à-dire que c'est peu de dire plutôt qu'en cherchant à simuler la préparation de l'œuvre, je me mets dans la situation de la produire, il vaudrait mieux dire que je me mets en position de la produire. Alors, je veux introduire une distinction entre situation et position. Situation renvoie à une condition empirique de faire. Si je me mets en situation de faire une œuvre devant vous, ça voudrait dire que je me mets dans la condition empirique de faire une œuvre qui va sortir et être publiée à la fin du cours. Alors, ce ne sera évidemment pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce qu'il ne sortira pas une œuvre. Du coup, je ne peux pas la faire devant vous. Si jamais je la fais. Ce qui sortira, ce sera seulement le cours lui-même. Et je ne traite pas de la préparation du cours. Peut-être la dernière année de mon enseignement ici, on pourra prendre ça comme sujet. De façon à arriver à une espèce de cirque extrêmement sophistiqué, de la simulation. Mais nous n'en sommes pas là. Et donc, à la situation, qui est une condition empirique de production, j'oppose la position, qui est l'acte d'image, imaginaire, par lequel je revais un rôle, je pratique et j'expose un imaginaire. Pour reprendre un exemple qui était autrefois célèbre, qui était donné par Sartre dans le début de L'être et le néant, un garçon de café qui apporte une consommation à un client est en situation de le faire, parce qu'il produit effectivement le déplacement d'une consommation. Il est simplement en situation de le faire. Mais si ce même garçon de café se met à penser son rôle, il y en a, il y en avait. Peut-être que maintenant, ils ont moins d'imaginaire, donc ils sont plus en situation et moins en position. Mais si ce garçon de café qui apporte une consommation pense son rôle, c'est-à-dire en rajoute un peu, se met à glisser, à voler, à manier le plateau avec aisance, bref, à afficher une espèce de maîtrise supérieure du garçon de café en situation de porter la consommation, alors à ce moment-là, il n'est plus en situation, il n'est en tout cas plus seulement en situation, il devient en position. Il est certain que se mettre en position peut être une manière d'alléger la tristesse et l'aliénation de certaines tâches. En mimant excessivement des tâches ennuyeuses, en les mimant d'une façon qui est à la limite de la comédie, de l'image, peut-être peut-on alléger par moment l'aliénation de ces tâches. Eh bien, j'entends de même la simulation du roman que moi, professeur, entre guillemets, c'est-à-dire lié à un métier rémunéré, j'entreprends. Enfin, j'entreprends ici une simulation de roman, mais je l'entreprends précisément non pas comme une mise en situation, car je ne vais pas produire une œuvre, mais comme une mise en position. Car la mise en situation, l'œuvre, en tout état de cause, elle ne pourrait être produite que dans la clandestinité de mon bureau, pas dans une salle avec un auditoire. Ça veut dire que je me mets en position, je laisse aller mon imaginaire, je réponds à ma nature, oui, je suis concerné par le coup. C'est ça l'avantage de se mettre en position, c'est d'être concerné par ce qu'on fait. L'image, à ce moment-là, est bénéfique, l'imaginaire est bénéfique, parce qu'il permet de vous attacher à ce que vous faites. Alors, si on fait un cours, je ne pourrais pas m'attacher au cours si je ne simulais pas, si je ne me mettais pas en position de fabriquer une œuvre dans le cours. Et si j'essaye donc d'être concerné par le cours, par cette mise en position, c'est évidemment parce que c'est mon seul espoir qui vous concerne ici. Je ne peux pas espérer vous concerner si je ne suis pas concerné. En termes plus généraux, la simulation comme méthode devient fabulatrice et elle se place elle-même aux portes du romanesque. Et c'est peut-être ce que voulait dire Montaigne par cette phrase lapidaire dont je voudrais bien qu'elle serve, qu'on la mette, qu'on l'accroche dans cette salle à côté du profil de Bergson. En tout cas, à chaque fois que nous nous y réunissons le samedi matin, parce que je ne veux pas qu'il ait la même devise aux autres professeurs, et cette devise qui serait donc de celle que Montaigne, quand il dit « Je n'enseigne point, je raconte. Je n'enseigne point, je raconte. » Et ici pointe évidemment le thème du récit. Car ce cours de plusieurs semaines, trois sont déjà passés, donc en principe il en reste sept, avant les trois séminaires sur Proust de la fin. Donc ce cours de plusieurs semaines est occupé et va être occupé, en tout cas maintenant, par une histoire, par un récit. Un récit intellectuel aux articulations narratives très lâches, qui n'aura rien, hélas, d'un thrilling, puisque ce sera l'histoire intérieure d'un homme qui veut écrire une œuvre, et délibère des moyens d'accomplir ce désir ou cette volonté, ou encore cette vocation. J'entends par vocation ce, non pas ce à quoi il est appelé, mais ce à quoi il s'appelle lui-même. Donc, il va s'agir d'un récit qui sera le récit d'une délibération. La délibération était un genre reconnu autrefois par la rhétorique. Vous savez qu'il y avait dans l'ancienne rhétorique trois grands genres. Il y avait le genre judiciaire, l'éloquence judiciaire, les discours dans les procès, n'est-ce pas ? Il y avait le genre délibératif, qui en fait s'appliquait au discours politique devant les assemblées politiques du peuple, et puis il y avait le genre épidictique, c'est-à-dire le genre d'exposition, les éloges funèbres par exemple, on exposait. Alors nous allons être dans le genre délibératif, nous allons tracer un cheminement délibératif dont les épisodes seront en gros les suivants, et a déjà commencé. Premièrement, c'est ce que j'ai traité les trois premières fois, écrire, d'où part en moi la force, la volonté d'écrire, c'est ce qui s'est terminé aujourd'hui. Deuxièmement, c'est ce qui commencera le samedi 5 janvier, quelles sont les épreuves que je dois traverser pour faire l'œuvre. Il s'agit donc du récit d'une initiation puisqu'il y aura des épreuves. Alors, cet homme, c'est-à-dire notre héros à venir, qui sera un héros très peu héroïque, ce sera évidemment un homme composé, vous l'avez deviné déjà parce que la façon dont j'ai procédé, un homme composé, un homme pseudonymique, car il aura plusieurs noms propres. Cet homme qui va essayer d'écrire s'appellera tantôt Flaubert, tantôt Kafka, tantôt Rousseau, tantôt Mallarmé, tantôt Tolstoï, tantôt Proust. Et pour ne pas faire la partie trop belle à la réussite finale que représentent ces noms, eh bien, il s'appellera aussi moi. Alors, comment est-ce que je pourrais oser me mêler à ces noms et m'autoriser d'eux? Est-ce que ça veut dire que je me prends vraiment pour un écrivain? Que je me simule comme écrivain? Ce n'est là pas tout à fait la même chose. Eh bien, je dirais oui. En un certain sens, je me prends pour un écrivain. Non pas sur le plan des valeurs et des images, mais sur le plan du faire, sur le plan de la pratique. Et quand je dis je me prends pour un écrivain, ça veut dire que je me prends par la main pour travailler, pour vivre. Et que pour travailler et pour vivre, tout est bon. Rosé vivre. Ce qui est prétentieux, on l'a dit déjà, à mon sens, ce qui est prétentieux, c'est de se comparer à tel ou tel écrivain. Mais je ne me compare pas, je m'identifie. Ce qui n'est pas la même chose. Mon imaginaire n'est pas psychologique. Je ne me projette pas dans l'image d'écrivain reconnu. C'est un imaginaire désirant. C'est un imaginaire amoureux. C'est précisément un imaginaire qui cherche à s'identifier, ça n'est pas une paranoïa. Et de plus, c'est un imaginaire de travail, et non pas un imaginaire d'être. C'est-à-dire que je vais m'identifier à une pratique, et non pas à une image sociale, qui d'ailleurs n'est plus tellement prestigieuse, hein, il faut bien le reconnaître. Aller demander au grand nom de la scène actuelle, à Carter, à Khomeini, à Marché, à Giscard, ce qu'ils pensent de Kafka, c'est pas tellement prestigieux d'être un écrivain. C'est fini. On reviendra un peu là-dessus à la fin du cours, parce que ça pose un problème quand on écrit. Alors, cet homme dont le récit commence sera donc tous ses noms à la fois, plus moi. Alors, le problème, c'est de savoir, tout de même, je l'ai dit, s'il sera vous, ou même l'un d'entre vous. Alors, ce n'est pas une question rhétorique, ça n'est pas un appel de protestation, on appelait dans la rhétorique une captatio benevolentiae par excusatio propter infirmitatem, c'est-à-dire une capture de bienveillance en faisant état excusatio à cause de sa faiblesse. Vous savez, les discours qui commencent en disant « Je suis tout à fait incompétent, excusez-moi, je suis tout à fait incompétent, puis... » Eh bien, donc, ce n'est pas du tout ça que je pense. La question « Est-ce que ce sera vous ?» aussi est une question d'ampleur historique, parce que c'est la question de savoir si une réflexion sur le vouloir écrire peut intéresser et concerner qui, peut-être, n'écrit pas, n'est pas du tout préjugé de votre situation individuelle à chacun d'entre vous. Mais disons que parmi vous, il y en a peut-être qui n'écrivent pas et qui ne sont pas dévorés par ce vice de l'écriture. Alors, est-ce que ça peut les concerner? Eh bien, je ne sais pas. C'est toute l'incertitude du transfert littéraire, du transfert par voie de littérature. Et cette incertitude va être déposée comme l'angoisse au fond de ce cours. Et peut-être, justement, peu à peu, le cours se dépeuplera-t-il à mesure où l'identification l'application ne marchera pas bien et que par conséquent, l'exposé des tribulations très particulières de quelqu'un qui veut écrire finira par lasser, disons, la curiosité des uns et la fidélité des autres. Je n'en sais rien. Donc, dès que celui qui veut écrire, et dont je vais tracer maintenant un certain parcours, quitte l'espace de l'espoir et du désir d'écrire, dont je viens de parler pendant trois cours, c'est-à-dire quitte le temps de la velléité. Nous quittons maintenant, ce samedi-ci, nous quittons le temps de la velléité qui a été notre temps pendant trois samedis. Remarquez, certains écrivains peuvent s'arranger pour ne quitter jamais le temps de la velléité. Le cas le plus célèbre est certainement Amiel. Amiel est un écrivain qui a écrit une œuvre, enfin un journal, et tout en étant constamment et jusqu'au bout velléitaire. Donc on peut faire une œuvre avec la velléité. Mais c'est un cas tout de même très sophistiqué. Alors, dès qu'on quitte le temps de la velléité pour passer au temps de la volonté, et c'est le titre du cours, n'est-ce pas, cette année, l'œuvre comme volonté. Alors, dès qu'on quitte le temps de la velléité, et dès qu'on passe de l'écrire à l'écrire comme tendance, à l'écrire quelque chose, puisqu'il faut bien, eh bien, à ce moment-là, de très douloureuses difficultés commencent. Des délibérations, des décisions partielles difficiles, des tribulations de la volonté et du désir, des doutes, des découragements, des épreuves, des blocages, des obscurités. Tout cela va se produire pendant ces 7 semaines. Et toute une pérégrination va commencer. Et c'est vraiment comme un chemin initiatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses à surmonter pour passer du vouloir écrire à l'écrire l'œuvre, il y a des choses à surmonter. Et je vais essayer de définir et de décrire 3 épreuves. Bon, je me conforme un peu à un modèle très courant d'initiation en 3 actes, ou de la pièce de théâtre, comme Turandot, par exemple. Hein. Initiation en 3 actes. 3 épreuves. Donc, 3 épreuves que celui qui veut écrire, d'après moi, va rencontrer sur sa route. Je vous l'ai dit, maintenant, avant de les aborder, donc, après, les faits. Donc, les 3 épreuves. La première, quelle sera-t-elle? La première sera une épreuve abstraite. Une épreuve, je veux dire par là, une épreuve mentale. Par opposition à la seconde, vous verrez pourquoi. Une épreuve abstraite, une épreuve mentale, qui va consister à décider du quoi écrire. C'est-à-dire, c'est l'épreuve du choisir. C'est l'épreuve de l'objet. La tendance doit se fixer sur un objet, c'est-à-dire qu'elle doit en éliminer d'autres. Et elle doit bien choisir. Il faut qu'elle choisisse bien, donc au besoin qu'elle prenne son temps. Il faut qu'elle choisisse bien, car ensuite, une fois que l'objet sera choisi, il faudra faire route avec cet objet pendant longtemps et l'abandonner en cours de route pour un autre objet est toujours possible, mais ce sera une faiblesse et un motif possible de dépression, de découragement. Donc, première épreuve, le choix. Deuxième épreuve, ensuite, une épreuve concrète et pratique. La conduite, pas à pas, de l'écrire. Écrire l'objet choisi. D'où la nécessité d'organiser sa vie en fonction du travail d'écriture et de surmonter les 1000 traverses extérieures et mentales de cet accomplissement. C'est cette épreuve qui est la plus longue à vivre et aussi à analyser, à raconter, c'est l'épreuve du temps. C'est l'épreuve de la patience. Enfin, troisièmement, une épreuve morale. la supputation du jugement de la société sur l'œuvre. Quand j'écris une œuvre, pendant que je l'écris, pendant que je l'imagine, et une fois que je l'ai écrite, je ne peux pas m'abstraire, je ne peux pas m'empêcher de supputer le rapport que cette œuvre a avec ma société, avec mon histoire. Et donc je me pose, et d'une façon, comme nous le verrons, souvent difficile, le problème de l'accord de l'œuvre et du social historique. Non pas en tant que théoricien de la littérature ou critique, mais en tant que sujet en proie à une activité et qui interroge l'accord entre cette activité et son monde. Car il arrive qu'on doive assumer l'œuvre comme un défaut d'accord avec la société, donc assumer l'œuvre comme une singularité, comme une solitude. Et la troisième épreuve est donc l'épreuve peut-être d'une schise sociale. D'une schise sociale. Donc, trois épreuves. Premièrement, le doute. Deuxièmement, la patience. Troisièmement, la séparation ou la sécession. Voilà, il me reste à vous souhaiter bonne fête, bonne année et rendez-vous, ceux qui veulent, le 5 janvier.